Chapitre 2. Savez-vous que Julien Robert avait un frère ? Non, j'aurais oublié de vous le dire. C'était pourtant un bien beau garçon et qui, certes, ne se croyait pas fait pour être ignoré. Le charme principal de sa personne, à ses propres yeux du moins, était une énorme chevelure frisée qu'il avait fait surnommer Absalom dans le cercle de ses amis. Sa principale vertu, une fort belle écriture, à l'aide de laquelle il avait conquis une place de commis dans une importante maison d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds. Depuis le jour où il s'était assis pour la première fois à son pupitre, la plume passait derrière l'oreille pour se donner un air crâne, mais bien gauche encore et tout palpitant, il s'était joliment déniaisé, je vous assure. Rien qu'à le voir ce soir descendre de la diligence qui le ramène pour quelques jours dans son village, rien qu'à l'entendre réclamer très haut ses bagages et parler avec condescendance au postillon, nous devinons que nous n'avons pas affaire à un naïf. Il arpente d'un air dégagé la petite place de l'auberge et salue d'un coup de chapeau tout à fait fashionable une jeune demoiselle qui passe en se demandant si c'est bien là Eugène Robert. La coupe de son pantalon gris fin, qui flotte autour de ses chevilles et couvre tout l'avant-pied, plonge la rue entière dans une profonde stupéfaction. Une bonne grand-mère, assise à sa fenêtre, met ses lunettes exprès pour mieux voir le phénomène et déclare ensuite que cet individu-là a les pieds beaux. « Écoute, jeune homme, » dit le beau garçon, en prenant par l'oreille un gamin qui passait en flânant, « sais-tu où demeure M. Julien Robert ?»«
Oui, monsieur. » »«
Eh bien, ouvre ton compas et va lui dire,
« Je n'en ai pas, monsieur. » »«
De quoi ?»«
De compas. »
Le bel Eugène partit d'un éclat de rire. « Petit nigo, va » fit-il en le secouant par l'épaule. « Dépêche-toi seulement d'aller dire à mon frère que je l'attends ici. Voilà 10 centimes pour ta peine et... Attends, donne-lui encore ceci. » En même temps, il tira d'un joli portefeuille sa carte qu'il remit à l'enfant. Celui-ci partit au trot, mais s'arrêta bientôt en s'entendant hêler par un camarade.
« Hé, Cholet, est-ce que le feu est au lac ?»«
Non, mais ce grand là-bas m'a donné une commission. Je porte ça à son frère. »
« C'est son étiquette, » dit l'autre en examinant la carte d'un air capable. « Si tu achètes du jus de réglisse avec tes centimes, je me recommande. »
Quelques minutes après, Julien Robert arrivait en grande hâte devant l'auberge. «
Bonjour, » dit-il d'un ton joyeux. « Comment vas-tu ? Je suis bien aise de te voir. »
« Bonjour, mon vieux, » répondit son frère en lui tendant la main avec une nuance de condescendance.
« Je vais bien puisque me voici. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Je ne voulais pas emporter mes effets avant de savoir si tu pourrais me loger chez toi pendant 4 ou 5 jours.
« Certainement, certainement. Tu prendras mon lit et je dormirai quelque part ailleurs. Donne-moi ta valise et viens. »
« N'y a-t-il pas de portefeuille ici ?» dit Eugène en regardant de tous côtés comme pour interroger l'horizon.
« Un portefeuille ? Mais tu sais bien que nous ne connaissons pas cette espèce. Chacun porte ses paquets soi-même. Allons, empoigne-moi le reste de ton bagage. Il ne faut pas prendre racine ici. »
Un parapluie et une canne liés ensemble par une courroie et un nécessaire de voyage à poignée de cuir, ce n'était pas bien lourd, de sorte que l'intéressant jeune homme put porter ce fardeau jusqu'au domicile de son frère sans en être accablé. La chambre de Julien était grande, bien éclairée, mais meublée avec une simplicité presque monacale. Le seul objet de luxe qu'on put y découvrir était un beau cadre de bois sculpté renfermant une grande photographie.
« Tiens, c'est Julie !» fit Eugène en l'apercevant.
« Elle est, ma foi, très bien. »
« Depuis quand as-tu ça ?»«
Je l'ai reçu d'elle à ma fête. Cela me tient compagnie, » ajouta-t-il en regardant le portrait avec tendresse. « N'ai-je pas une belle vue ? » continua-t-il comme son frère s'approchait de la fenêtre.
« Chacun son goût. Pour ceux qui aiment l'animation, c'est un peu mort. »
Devant eux, sans qu'aucune muraille rétrécit l'horizon, la vallée s'étendait, paisible, avec ses fouillis de saules et de petits conifères dans les bas-fonds, ses chalets blancs groupés au pied des pentes, le sombre scintillement de son lac aux eaux noires et, tout au fond, l'arête escarpée du gros taureau, dessinant sur le ciel sa silhouette bleuâtre. Mais Eugène tournait maintenant le dos à la vue, uniquement occupé de la cigarette qu'il roulait entre ses doigts.
« Tu ne voudrais pas revenir ici pour tout de bon, je gage, » lui dit son frère.
« Ah, mais non. J'en suis à me demander comment j'ai pu y tenir pendant 20 ans. Franchement, vous vivez comme des huîtres. On met le nez à la fenêtre, qu'est-ce qu'on voit ? Des tourbières. On descend dans la rue, pas une âme. Il y a 2 ou 3 pains en train de moisir entre les vitres du boulanger, et voilà toutes les ressources de l'endroit. » Julien eut bonne envie de demander à son frère pourquoi donc il était venu, mais il pensa que la question serait peu hospitalière et la garda pour lui. « Eh bien, dit-il en riant, je te conseille d'acheter une autre commune. Voyons, je soupe dans 1 heure, que veux-tu prendre en attendant? J'ai ici du petit blanc de Boudry qui n'est pas mauvais, nous allons le goûter. » Expérience faite, Eugène daigna trouver le petit blanc supportable en effet. Et il s'adoucit au point de déclarer que l'endroit avait du bon, après tout. Voulait-il dire de bon vin? Je l'ignore. « Que fais-tu de ce machin-là? » demanda Julien au bout d'un moment, en indiquant le lorgnon d'Eugène qui se balançait au bout d'un cordon sur l'estomac de son propriétaire. « Si tu te mets ça sur le nez, tu donneras de la distraction à la localité, je t'en réponds. Pourquoi donc t'amuses-tu à te gâter les yeux ?»
« Ce n'est pas un lorgnon sérieux, » répondit Eugène en riant. « J'y ai fait mettre du verre à vitre. Mais ça ne me va pas mal, hein ?»
Puis, installant sur son nez le sudit ornement, il se campa devant la petite glace et contempla avec beaucoup de satisfaction les charmes de sa personne. « À propos, » dit-il tout à coup en s'efforçant de prendre un air dégagé, « je t'avais promis 50 francs pour ce mois-ci, n'est-ce pas ?»«
Oui. »
« Eh bien, tu ferais mieux de n'y pas compter. »«
C'est ce que j'ai fait, » répondit tranquillement son frère.
« Parole d'honneur, j'avais le billet en portefeuille il n'y a pas 15 jours. Mais j'ai eu le malheur de casser une pipe en écume de 40 francs qui appartenait à notre caissier et naturellement, j'ai dû lui en rendre une pareille. Cela m'a bien contrarié, surtout à cause de toi. »
Oh, que cela ne te tourmente pas, je n'ai jamais compté sur cet argent.
Eugène rougit de dépit.
Tu fais exprès de me décourager, s'écria-t-il. Je devine bien ton plan, va. Tu veux garder pour toi tout seul l'honneur de liquider nos dettes de famille, afin qu'on dise, voyez donc ce Julien Robert. Il se tue au travail pour réhabiliter la mémoire de son père, tandis que son polisson de frère garde pour lui tout ce qu'il gagne. Mais tu ne pourras pas m'empêcher de faire ma part.
Je n'ai pas eu beaucoup de peine à t'en empêcher jusqu'ici, fit observer Julien avec un sourire légèrement dédaigneux. Et quant à t'encourager, ma foi, ce n'est pas mon habitude de porter les chiens à la chasse. Si tu vois où est ton devoir, tant mieux. Contente-toi alors d'une pension moins chère, porte le même chapeau 3 ans de suite et ne casse pas trop souvent des pipes de 40 francs. Mais rappelle-toi que je ne t'ai jamais sollicité. Je viendrai bien tout seul à bout de mon entreprise. »
À quoi en est cette liquidation ? Demanda Eugène qui arpentait la chambre pour dissimuler un certain embarras mêlé de honte.
Il y a encore 1 500 francs dus à des ouvriers. Mon notaire me conseillait de demander une remise de 20%, mais je n'y ai pas consenti. Si mon travail y peut suffire, « personne ne se plaindra d'avoir perdu seulement 1 centime. »«
Un petit héritage nous viendrait bien à point, » dit Eugène en faisant claquer sa langue. « Ta fiancée n'a-t-elle rien à prétendre de son oncle David ?»«
Je ne spécule pas sur la mort des gens, » répondit sèchement Julien. « Laissons cela, veux-tu ? D'ailleurs, j'ai à sortir 1 minute. »
Quoique la légèreté et la prodigalité d'Eugène fussent à chaque nouvelle visite une source d'inquiétude et d'irritation pour son frère, Julien n'oubliait pas cependant les devoirs de l'hospitalité et se départait en ces occasions de ses principes de stricte économie. En ce moment, il courait chez son hôtesse qui habitait la maison voisine pour la prier d'ajouter un petit extra au souper plus que frugal qu'elle lui préparait d'ordinaire. Julien, comme beaucoup d'horlogers le font, surtout dans les petites localités,
soupait de pain, de café et de pommes de terre, et ne s'en portait pas plus mal. Mais son frère avait pris au chef-lieu des habitudes moins ascétiques, il eût fait la grimace à une aussi maigre pitance. La bourgeoise de Julien, tout en grommelant de n'avoir pas été avertie plus tôt, se mit à la hauteur des circonstances et présenta bientôt à ses hôtes une splendide omelette, suivie de quelques tranches d'un jambon succulent et d'une délicate salade aux laitues. Eugène mangea de grand appétit et déclara le souper excellent. « Ne dirait-on pas qu'il en est surpris ?» murmurait l'irascible hôtesse en retournant à sa cuisine. « Est-ce qu'il croit, par hasard, que nos porcs n'ont pas de jambon ? Mais ces oiseaux-là sont tous les mêmes. Aussitôt qu'ils ont quitté le nid et se sont tant soit peu remplumés ailleurs, ça fait la roue et ça ne reconnaît plus ni père ni mère. » « Voilà Rose-Louise, » dit Eugène qui avait quitté la table pour s'approcher de la fenêtre et lorgner les rares passants. « Elle est devenue diantrement jolie, ne trouves-tu pas ?»« Chacun son goût. Moi, je n'aime pas les blondes. » « Parce que Julie est brune, il ne faut pas être exclusif, allons donc. N'as-tu plus admiré personne depuis le jour où tu t'es fiancée ?»« Je n'ai point rencontré d'autres jolies filles, » dit Julien naïvement. C'est le cas de dire que l'amour rend aveugle. À propos, quand irai-je présenter mes respects à cette incomparable Julie ? Demain matin, si tu veux, mais il ne me sera pas possible de t'accompagner car j'ai de l'ouvrage pressé à terminer. Le lendemain donc, vers 9 heures, à la Brévine, nous ne sommes pas formalistes et nous estimons que toutes les heures du jour sont bonnes pour visiter ou recevoir ses amis. Eugène se mettait en route, cheveux au vent et lorgnon sur le nez. En confidence, je vous dirai qu'il enlevait ce précieux instrument d'optique toutes les fois qu'il désirait voir distinctement quelque chose. L'éblouissant jeune homme avait accompli les diverses opérations de sa toilette avec un soin tout particulier. Non qu'il eût l'intention de battre en brèche le cœur de Julie, mais il voulait qu'elle fût bien aise d'avoir un beau-frère si distingué. Chaussé, coiffé, gileté, cravaté d'une façon irréprochable, il s'avançait d'un pas alerte le long du petit sentier qui traversait les tourbières, évitant soigneusement les flaques dans lesquelles ses bottines auraient compromis leurs brillants. La journée s'annonçait chaude et splendide. De tous côtés résonnaient les voix joyeuses des faneurs, le bruit des marteaux retardataires qui frappaient les faux et le grincement aigre des pierres à aiguiser sur le tranchant des lames. La caille faisait entendre dans l'herbe son chant monotone qui ressemble au glouglou de l'eau. La pauvrette saluait son dernier beau jour, car avant le soir, la faux impitoyable aurait mis à découvert son nid, caché parmi le trèfle et l'esparcette. Quelques paysans entassaient déjà dans les chars le foin parfumé qui avait séché la veille. Ils se hâtaient, comme si l'orage eût grondé à l'horizon, et pourtant le ciel était parfaitement pur. Mais un fermier avisé et prudent ne compte jamais sur le soleil du lendemain. Plusieurs des travailleurs reconnurent Eugène et le saluèrent de loin. Et comme il était bon enfant, après tout, il entra dans le pré pour serrer la main à ses anciens camarades, assez satisfait d'ailleurs de se montrer à eux dans toute sa gloire citadine, rehaussée encore par ce rustique entourage. D'étape en étape, il parvint enfin au pré Bertou, se préparant à briller devant Julie comme un astre de première grandeur. Malheureusement, de tous les jours de la semaine, aucun n'eût été plus mal choisi pour cette visite. Julie faisait le pain et souffrait difficilement quelqu'un auprès d'elle pendant cette grave opération. Toutes les ménagères ont de ces moments où la présence du sexe fort leur semble particulièrement encombrante, de ces grands jours de branle-bas, lessive, écurage ou cuite au four, où les infortunés maris, fils et frères, fuient devant l'inondation des planchers ou le déploiement formidable de toute la batterie de cuisine. Julie, rouge et affairée, les manches relevées et les bras enfarinés jusqu'au coude, étendait de la pâte sur des feuilles à gâteau, lorsque Eugène fit son entrée dans la cuisine. Un brillant rayon de soleil se glissa par la porte en même temps que lui, et comme Julie, éblouie par cette soudaine clarté, levait les yeux, elle aperçut dans la baie lumineuse un jeune homme d'élégante tournure qu'elle ne reconnut pas tout d'abord. « Bonjour, Julie, » dit Eugène en s'avançant. « J'arrive à propos, comme je vois. » Pour toute réponse, Julie laissa tomber son rouleau à pâte et leva les bras avec un geste qui signifiait clairement « Il ne manquait plus que cela !»«
Bonjour, Eugène, comment allez-vous? Je ne peux pas vous donner la main, vous voyez » dit-elle en montrant ses doigts enfarinés. « Prenez un tabouret et asseyez-vous. Cela ne vous fait rien de rester à la cuisine. L'oncle dort sur le canapé dans la chambre et il ne faut pas le réveiller. »
« Est-il malade ?»«
Oui, il a eu ce matin un étourdissement qui m'a bien effrayée. À son âge, vous savez, le moindre accident peut avoir de mauvaises suites. J'ai été occupée à le soigner jusqu'à présent et c'est pourquoi je me trouve si retardée. Avez-vous soif ? Je vais vous tirer un verre de bière et vous goûterez le premier gâteau qui sortira du four. J'espère que vous n'êtes pas devenu trop monsieur pour aimer la sèche aux œufs. »
Certainement non, surtout quand vous l'avez pétri vous-même. »
Sans prendre garde aux compliments, Julie continua sa besogne. C'était plaisir de la voir ainsi affairée, le pas leste, le teint animé, courant du four à la pétrissoire et de la pétrissoire à ses gâteaux, sans bruit, sans encombre. Eugène ne quittait pas des yeux sa future belle-sœur. Elle portait une jupe bleue un peu courte, qui laissait voir un pied étroit et une cheville très fine. Ses bras nus étaient faits autour, et la main ferme et bien modelée y tenait par un poignet d'une délicatesse rare chez les filles de la campagne. Une camisole de basin blanc, serrée à la taille par la ceinture du tablier, lui laissait dans son ampleur fraîche et commode toute l'aisance de ses mouvements. Bien loin de lui nuire, cette toilette négligée prêtait à Julie un charme simple et naturel que Eugène ne fut pas sans reconnaître. « Julien n'a pas eu si mauvais goût, » pensa-t-il. Puis, comme la jeune fille, après avoir placé devant lui un verre de bière et une tranche de gâteau, laissait languir la conversation, il mit en œuvre pour l'alimenter toutes les ressources dont il disposait.
« Où sont les enfants ? » demanda-t-il.
« À l'école. Pardon, il faut que j'ouvre le four. Voilà cette sèche toute noircie en dessous. Ferdinand n'est plus à la maison, vous savez. Le four est trop chaud, je le pensais bien. »
« Ferdinand n'est plus à la maison.
Attendez une minute, je me brûle les doigts. Là, voilà qui est fait. Nous l'avons placé à la ferme du Bois de l'Halle. Il avait toujours eu du goût pour le paysage et nous n'avons pas voulu le contrarier. D'ailleurs, l'horlogerie ne vaut plus grand-chose. Et dépêchez-vous de cuire, je suis pressée, » ajouta-t-elle en enfournant ses dernières tartes. « À notre pain, maintenant. »
Nul n'est parfait et Julie avait aussi ses petites faiblesses. La chaleur l'exaspérait. Quand la bouche du four lui soufflait au visage ses ardentes exhalaisons, que la pâtisserie brûlante échauffait encore l'air de la cuisine et que le soleil dardait par la fenêtre d'un aveuglant rayon, quand, dans cette atmosphère étouffante, Julie devait se pencher sur la pétrissoire et, de ses deux bras plongés jusqu'au coude dans la pâte, remuer, travailler cette masse lourde et compacte jusqu'à ce que le rouge lui montât au cou et au front, alors la bonne humeur de la jeune fille menaçait de fondre aussi à cette chaleur. Lorsqu'elle était seule, elle entonnait quelques joyeuses chansons pour se remettre en gaieté. Mais la présence de son malencontreux visiteur lui ôtait même la ressource de ce dérivatif. Il y eut pis. Eugène, qui s'était promis de se rendre agréable, entama sur ses affaires personnelles un monologue interminable qui agaça Julie plus que 20 degrés de chaleur n'eussent pu le faire. « Vous comprenez, » disait Eugène, après une longue histoire sur la perversité des fournisseurs en général et de son tailleur en particulier, « vous comprenez que je n'étais pas assez simple pour me laisser arranger ainsi. Je dis à ce filou de tailleur, « Passez-moi la salière, s'il vous plaît. Merci. Et le petit pot d'eau, maintenant. » Voilà. Je dis donc à mon coquin de tailleur, « Prenez un autre morceau de gâteau, n'est-ce pas ?» interrompit de nouveau Julie pour couper court à ce sujet peu intéressant. « Volontiers. » Il y eut une pause pendant laquelle la boulangère aux joues enfiévrées trouva la température considérablement rafraîchie. « La fille de mon patron s'est mariée la semaine dernière, » recommença Eugène en achevant sa dernière bouchée. « Ah, et vous avez été à la noce ? » ?»« On ne m'a pas fait l'honneur de m'y inviter. J'y aurais pourtant aussi bien figuré que notre gros allemand de caissier qui conduisait une charmante demoiselle, grande, brune, tout à fait dans votre genre, Julie. Il s'en éprend sur l'heure, elle a quelque chose comme 50 000 francs et la demande en mariage le lendemain. Et elle a refusé ? Elle a accepté, c'est le plus fort. Les Allemands nous mettent hors de chez nous. Ils nous font un gâchis de toutes nos élections. Notre nationalité est opprimée par la leur. Ils veulent la centralisation de tous les pouvoirs dans la ville fédérale. Le budget du département militaire finira par engloutir tous les autres. La centralisation, c'est la mort. Pour éviter ces périodes enflammées, réminiscence de quelques banquets patriotiques, Eugène s'était levé, le bras étendu vers la pétrissoire, comme pour la prendre à témoin des dangers de la centralisation. « Parlez bas, dit Julie, vous réveillerez l'oncle. » L'orateur baissa son diapason, monté dans la plus haute gamme du pathétique, et reprit une voix naturelle pour continuer l'énumération de ses griefs contre les Allemands. La patrie neuchâteloise était en danger, les droits politiques compromis, tous les métiers envahis par cette immigration germanique. Et pour preuve, la place de premier commis dans la maison S. V. Compagnie venait d'être accordée à un jeune Bernois, de préférence à Eugène Robert, communier du Locle et de la Brévine. Cela crie vengeance, murmura Julie avec un sourire qu'elle se hâta de dissimuler en se penchant pour voir si sa patte lèverait bientôt. Puis le monologue recommença. Quand l'orateur a tant de plaisir à s'entendre, il n'y a pas de raison pour que cela finisse. Et Julie trouva qu'il faisait toujours plus chaud. Une famille d'hirondelles nichée dans la cheminée voltigeait autour de son domicile avec un gazouillement incessant et 1000 cris joyeux. À l'ordinaire, Julie aimait cette musique. Mais aujourd'hui, elle n'y entendait que du verbiage. « Oh, si on pouvait les faire taire » s'écria-t-elle tout à coup. Et je pense que ce vœu pieux comprenait le beau-frère aussi bien que les hirondelles. « Julie ! Julie ! » appela de la chambre la voix du vieil oncle. « Auriez-vous l'obligeance d'y aller, Eugène ? » dit la jeune fille. « Je ne puis quitter ma patte. » Cette heureuse diversion lui procura une demi-heure de repos pendant laquelle elle acheva de pétrir. De grosses boursouflures qui se montraient à la surface de la masse pâteuse indiquaient que le levain commençait à opérer. Julie balaya le four et prépara ses sébiles qu'elle saupoudra intérieurement de farine, puis elle mit dans chacune un gros morceau de pâte qu'elle secoua énergiquement dans tous les sens pour lui faire prendre la forme de la corbeille. Le difficile est de retourner la sébile sur la pelle et de jeter le pain au fond du four d'un mouvement vif et sans l'endommager. Au plus chaud de l'opération, malheur, voici Eugène qui revient, craignant de priver trop longtemps Julie de sa société. « Puis-je vous aider ? » demanda-t-il galamment. « Merci, j'ai déjà bien assez de peine comme ça. »« Eh bien, je m'en vais, » dit-il vexé. Mais par une évolution malheureuse, il accroche brusquement la queue de la pelle que tenait Julie, et paf, le large rond de pâte tombe lourdement sur les dalles. « Quel maladroit je suis !» s'écria le coupable d'un air concerné. « Puisque vous le dites, il faut bien le croire, » répliqua Julie, moitié fâchée, moitié riant. « Allons, ne prenez pas cette mine effarée. C'est un pain à refaire, voilà tout. Et cela vaut encore mieux qu'une jambe cassée et les morceaux perdus. » À ce moment, l'oncle parut sur la porte. « Êtes-vous mieux ?» demanda sa nièce avec sollicitude. « ça va, » répondit-il en prenant un tabouret près du foyer. « J'espère, ma fille, que tu as invité Eugène à dîner avec nous. » « C'est à son service s'il veut se contenter de viande froide et de salade. Voilà bientôt midi. Je n'ai plus le temps de fricoter. »« Merci, j'accepte avec plaisir. Une tranche de viande froide servie par vos mains ?»« Oh, pardon, nous avons des fourchettes. » Eugène haussa légèrement les épaules et remballa le reste de sa phrase, bien décidé à ne plus prodiguer en vain des compliments si mal appréciés. Voyant que l'oncle paraissait faible et fatigué, Julie emmena Eugène avec elle au jardin.
Si je ne craignais une méchante réponse, dit-il, en la regardant cueillir de belles laitues dont elle emplissait son tablier, je vous offrirais bien de vous aider. Eh bien, puisque vous êtes si obligeant, puisez quelques seaux d'eau et remplissez la seille et la grande écuelle rouge qui sont là sur le mur. Mais n'allez pas tomber dans la cuve, s'écria-t-elle en le voyant se pencher avec un zèle imprudent au-dessus de l'ouverture béante. Après tout, ajouta-t-elle en aparté, tout en continuant sa cueillette, il a la tête si vide qu'il n'irait assurément pas au fond. Mais c'est égal, ça gâterait ses beaux habits. Le temps est bien éloigné où, moi aussi, je m'asseyais sur l'escalier moussu de la cuve pour laver des laitues avec une gentille cousine. La large écuelle de terre grossière était posée entre nous deux et nous scrutions avec attention les replis de chaque feuille pour voir s'il ne recelait point quelque hôte indiscret. De temps en temps, nous nous taquinions quand nos doigts se rencontraient dans l'eau. La cousinette me lançait des gouttes au visage pour me punir de vouloir toujours attraper les mêmes feuilles qu'elle. Mais quand je la priais de continuer parce que j'aimais cette averse, elle n'en voulait plus rien faire. Parfois, nous étions sérieux. Nous avons discuté sur ces pierres grillées du soleil des questions plus hautes que nous. Ma cousine était calviniste, moi, je ne voulais pas entendre parler de la prédestination, et chacun avait un égal désir de convertir l'autre. Ces jours-là, notre salade était assaisonnée de théologie. Mais pardon, ce n'est pas de moi-même que je dois parler. Seulement, en voyant Eugène et Julie assis sur ces marches que je connais si bien, je n'ai pu m'empêcher de penser au temps où j'épluchais aussi des laitues. C'est une justice à me rendre, j'étais passé maître en cet art, et dans aucun des petits talents d'agrément que j'ai cultivés par la suite, je n'ai acquis une telle virtuosité. Je n'y mettais point la négligence du bel Eugène. Voyez un peu, je vous prie, avec quelle délicatesse anxieuse il trempe le bout de ses doigts dans l'écuelle. Un chat passant sous une gouttière ne prend pas plus de précautions pour ne point se mouiller. C'est que le soleil qui sèche des mains humides les brunit en même temps et l'élégant commis craint de voir reparaître sur les siennes le hâle campagnard dont il a eu tant de peine à se débarrasser. Une chenille ! S'écria Julie en pêchant à la surface de l'eau la disgracieuse bête. Eugène, c'est vous qui venez de la jeter dans la seille avec cette feuille. Si Élise Juvet me consulte au sujet d'un certain jeune homme, ajouta-t-elle en riant, je ne pourrais pas dire qu'il sache éplucher la salade, c'est pourtant un talent utile en ménage. Élise Juvet, s'écria Eugène, qui donc vous a dit que vous êtes venu ici pour une demande en mariage? Il ne faut pas être bien malin pour le deviner. Quelle fille, pensa Eugène, elle voit courir le vent. Ça ne fera pas une femme commode. Eh bien, dit-il, j'espère que vous allez m'aider dans cette affaire. Tous deux tournaient le dos au sentier et ne voyaient pas que quelqu'un s'approchait. Tout à coup, un frôlement de pas sur l'herbe courte les fit tressaillir. Je vous dérange peut-être, murmura discrètement la nouvelle venue, tante Judith en personne, plus jaune que jamais. Nous déranger ? Quelle idée ! C'est que vous avez l'air si, je ne veux pas dire si tendre, mais si intime. Je ne voudrais pas interrompre vos confidences. Vous avez raison, les confidences amoureuses, ça se reprend difficilement, répondit Eugène, uniquement pour dire quelque chose. Ah ! Vous en êtes déjà là ! Fit tante Judith, et un singulier sourire pinça ses lèvres minces. « Voilà ce que c'est que d'être beau garçon, on va vite en besogne. »« Je n'aime pas ce genre de plaisanterie, » dit Julie froidement. « Si Julien était ici, vous ne vous le permettriez pas. » »« Je crois en effet que cela ne lui serait pas très agréable, » répondit la bonne tante avec le même sourire. « Comment va l'oncle aujourd'hui ?»« Pas très bien. Voulez-vous entrer pour lui dire bonjour ?» « Non, pas à présent. Je vais au nid du fol chercher une journalière pour Madame Mathé. Quand on est pauvre, il faut se résigner à devenir la commissionnaire des gens. »« Si vous dîniez avec nous avant d'aller plus loin, » proposa Julie, dont le ressentiment ne durait jamais longtemps. « Non, merci. Madame Mathé m'a fait manger un morceau de je ne sais quoi à la cuisine. C'est assez bon pour moi. » Pauvre dame Mathé, si elle avait entendu avec quel mépris on parlait de sa jolie cuisine et de sa bonne daube froide. Pouvait-elle donc faire entrer Madame Fèvre dans la chambre à manger, au beau rideau de Damas, quand la noble anglaise d'Yverdon, drapée dans son plus fabuleux peignoir, était en train d'y savourer lentement son lunch? Il y eut une pause pendant laquelle tante Judith tourna et retourna dans son âme rancunière l'injure mortelle qui lui avait été faite, se promettant bien de s'en venger sur l'espèce humaine en général et sur Madame Mathé en particulier. « Je m'en vais, » dit-elle enfin. « En revenant, je dirai bonjour à mon beau-frère, si je ne vous dérange pas trop, du moins. »« Bien au contraire, vous me rendriez réellement service. » Fritz Blanc m'a demandé de leur aider cet après-midi à rateler le grand pré des taillères. Mais je n'aurais pas aimé à laisser l'oncle tout seul. Si vous êtes là pour lui tenir compagnie, je m'en irai tout à fait tranquille. Bien, tu peux compter sur moi. À la revoyance, donc. Portez-vous bien, monsieur Robert. Bon voyage, madame. Si ça n'était que ça convient à mes plans, marmottait tante Judith en reprenant son pèlerinage, tu aurais pu rester toi-même pour garder l'oncle, ma belle Julie. Mais j'avancerai mes petites affaires aujourd'hui, et quand j'aurai l'argent, nous verrons si l'on osera encore me faire manger à la cuisine, et si Julien Robert me dira, comme l'autre jour, « Madame Fèvre, vous êtes gringe, et si l'on m'invitera seulement comme bouche-trou. Ah, je serai alors la chère petite tante de tous mes neveux. Mais nous verrons !» répéta-t-elle à haute voix, avec une exaspération croissante, secouant si fort la tête que son chapeau faillit en perdre l'équilibre. Au son de cette voix colère, deux ou trois vaches paisibles qui broutaient le long du sentier levèrent la tête et suivirent cette gesticulante voyageuse de leurs gros yeux étonnés et doux. « Avez-vous envie de venir au pré avec moi ?» demanda Julie à Eugène après le dîner. Cette offre parut tenter médiocrement le commis aux blanches mains. « Je ne connais pas vos voisins, » dit-il en s'appuyant nonchalamment contre le dossier de sa chaise. « Vous permettez que je fume une cigarette ?»« Non, la fumée fait tousser l'oncle. Mais si une cigarette est nécessaire à votre bonheur, vous pourriez aller devant la maison. » Eugène ne bougea pas et prit un air encore plus languissant. « Comme il fait chaud !» dit-il d'une voix éteinte. « Je vous assure, s'écria Julie, que rien qu'à vous voir étendu ainsi comme un paquet de flanelle, j'en perds toute force moi-même. »« Il fait chaud, c'est vrai, » dit l'oncle de son ton conciliant. « Mais il faut pourtant se secouer, mon garçon. Allez au pré avec Julie, ça vous réveillera. » Eugène se leva et prit son chapeau. « Si je meurs d'un coup de soleil, vous en serez responsable, » dit-il tragiquement. Au moment où Julie le dragon emmenait sa victime, Fritz Blanc, qui, on se le rappelle, habitait la même maison, paraissait sur l'autre porte, suivi d'une joyeuse troupe de faneurs et de faneuses. « Bon, voici du renfort, » s'écria-t-il. « Ce beau garçon est-il votre futur beau-frère, Julie ? Ça doit faire un crâne militaire. Sans indiscrétion, de quel bataillon êtes-vous ? Je suis lieutenant au bataillon numéro 18. Lieutenant, sapristi, c'est un beau grade. Moi, je n'ai pas été capable de passer sergent. Notre instructeur m'avait sur sa corne et ça a gâté tout mon avenir militaire. Vous ne l'avez pas connu, notre colo ? Quel sacreur que c'était ! Quand il faisait ses déboulonnés de jurons, le bataillon tremblait sur toute la ligne. On ne sait plus jurer comme ça. Louis, donne une fourche au lieutenant et un râteau à Julie.